Alors bonjour à tous, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, nous avons un invité spécial, c'est Paul Personne. Donc bonjour Paul, merci d'avoir accepté cette interview.
Salut.
Si cela te convient, je vais te présenter rapidement, tu pourras étoffer si besoin, si j'ai oublié des choses au niveau de ta bio.
Ok.
D'accord. Donc tu es un chanteur et guitariste actif depuis 1966, tu officies dans le rock et le blues. Après quelques tentatives infructueuses avec des groupes dans les années 70, tu décides de partir en solo au début des années 80. En 82, tu sors ton premier album solo intitulé Faut que ça bouge. En 83, tu sors ton album exclusif dont deux titres, comme Un étranger et Ça va rouler seront particulièrement remarqués. En 91, tu reçois le Bus d'acier, c'est le grand prix du rock français, et en 92, tu sors un album Comme à la maison que tu as concocté dans ton home studio qui sera certifié disque d'or, soit vendu à plus de 100 000 exemplaires à l'époque, avec le titre Le Bourdon qui sera un succès radio. Tu participes en 93 à l'enregistrement du disque d'Eddie Mitchell Rio Grande, tu as également joué avec Johnny Hallyday durant ses concerts au Parc des Princes. Tu enchaînes les années d'après avec des albums et tournées. Pour résumer, tu sors 3 albums en groupe entre 77 et 80. Depuis 82, tu as sorti une quinzaine d'albums. Et là, tu viens de sortir ton dernier album, Funambule ou Tentative de survie en milieu hostile, sorti le 31 mai 2019. Sur cet album, tu es accompagné de Guillaume Destarac à la batterie, de Christophe Garraud à la basse, de Mick Latrell au clavier, d'Olivier Laneluc aux arrangements cordes et cuivres, de Fender Rhodes à l'orgue Hammonds et Gloria H. Gravalos-Villette au cœur. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que j'aurais peut-être oublié ?
Non, mais ta description est bien, il y a plein de trucs qu'il faut oublier parce que c'est normal, pour couvrir ce nombre d'années, il y a eu plein d'autres choses, j'ai fait plein d'autres duo avec bien des sûr. Tas de gens, avec Jacques Higelin, Véronique Sanson. J'ai eu la chance d'avoir des tas de rencontres vachement chouettes, enrichissantes. J'ai fait un album avec Hubert Félix Thiéfaine, Amicalement Blues. Mm-hmm. Mais c'est pas grave, tu peux pas tout dire, sinon il faudrait 3 heures d'émission, quoi.
Exactement.
Mais c'est cool d'avoir déjà résumé ça comme ça, ouais.
D'accord. Et là, concernant ton dernier album, Funambule, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ?
Ah, disons que c'est un truc qui est parti un peu spontanément, un peu comme tous mes albums, dans le sens où je me sens jamais obligé de faire un nouvel album. Ça vient, quand l'envie se fait ressentir, quand voilà, je commence à griffonner de plus en plus de choses sur des cahiers, ou à raconter des choses, ou à trouver des riffs, ou des suites d'accords, ou des mélodies sur un dictaphone, ou une vieille cassette, ou un truc comme ça, quoi. Et bon, bah là, c'est à peu près ce qui s'est passé, genre, en 2016-2017, quoi. Je pense que il y avait pas mal de choses qui me hérissaient le poil. Il y avait eu élections américaines, on était dans les élections françaises, avec plein de donneurs de leçons, plein de monsieur je sais tout, et donc voilà, ça m'a encore à nouveau mis en colère et déçu de l'espèce humaine avec laquelle on est confronté tous les jours et dont je fais partie d'ailleurs. mais j'ai toujours eu du mal à trouver ma place au milieu de ce monde, quoi. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire des choses, il y a des morceaux qui sont ressortis, quoi. Donc j'en ai sélectionné certains, j'ai trouvé un studio pas trop loin du côté de Forges-les-Eaux, et voilà, j'ai retrouvé un ancien copain anglais qui est ingénieur du son. Voilà, j'ai convié les personnes dont t'as donné le nom dans ce studio. J'ai fini à Bruxelles au studio ICP, et voilà, cet album s'est fait assez naturellement en plusieurs sessions, sans pression, sans avoir le besoin de le sortir à un moment précis. J'avais pas une idée précise de quand partir sur la route aussi, donc voilà, ça s'est fait assez naturellement, quoi.
T'avais pas de pression d'agenda en tout cas?
Non, pas du tout. Je m'entends très bien avec le label avec lequel je travaille, et il me laisse faire vraiment ce que je veux, j'ai aucune pression artistique ou quoi que ce soit. Puis en plus, je voulais qu'il soit assez simple, ce disque. Je voulais pas une production trop sophistiquée. Donc voilà, comme c'est moi qui m'occupe souvent de cette histoire-là avec un ingénieur du son, voilà, je l'ai mixé à Bruxelles et je voulais que ça reste assez pur, assez basique, quoi. Il y a la plupart des solos de guitare qui sont dans ce disque, c'est des trucs qui ont été faits au moment de l'enregistrement, parce que j'enregistre toujours à l'ancienne, un peu comme depuis les années 60, c'est-à-dire il y a les musiciens au milieu du studio, on se regarde, on joue ensemble, j'ai besoin de cette interaction. Enfin, j'ai pas de home studio, contrairement à ce que t'as dit pour Comme à la maison. Comme à la maison, je l'avais fait sur un petit 4 pistes qu'un copain m'avait prêté, et je suis allé l'enregistrer dans un vrai studio dans le sud de la France, mais juste avec un ingénieur du son. Mais voilà, j'ai pas de home studio. Pour moi, j'ai un petit magnéto qui me sert de brouillon, et ça me plaît d'être en studio avec les musiciens, qu'il y ait vraiment cette interaction, cet échange entre nous. Donc parfois, je pourrais faire mieux, même sur des solos de guitare ou des choses comme ça, en le refaisant après, mais ça m'intéresse pas vraiment cette forme de perfection. Je préfère garder une énergie brute et sincère plutôt que d'avoir un disque peut-être parfait mais peut-être chiant à l'arrivée, quoi.
Parce que j'ai cru lire sur internet que tu faisais que 2 ou 3 prises maximum pour refaire ton rendu final. C'est vrai ça ou pas?
Ouais, disons que j'ai besoin d'avoir cette fraîcheur. On fait une prise une fois qui parfois est la bonne, mais parfois on essaie de faire mieux avec une deuxième si jamais il y avait des erreurs, ou maximum une troisième, mais après la troisième j'arrête parce que je préfère passer à un autre titre et retrouver à nouveau cette fraîcheur sur ce titre, sur un nouveau et peut-être revenir au titre qu'on a laissé tomber, peut-être le lendemain ou plus tard dans la nuit, ou justement pour retrouver cette spontanéité, parce que au bout de la troisième prise, on commence à un peu à se singer, à essayer de retrouver ce qu'on avait fait dans les prises d'avant qui étaient pas mal, et puis donc ça m'intéresse moyen, quoi. Je préfère avoir un truc peut-être plus imparfait, mais peut-être plus vivant, quoi.
Alors, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure concernant un peu le ton de l'album, ce qui t'énervait et tout, j'ai trouvé que la tonalité générale de l'album oscille entre colère et désenchantement. On sent une certaine aigreur même par rapport à la bêtise humaine. Est-ce que tu es blasé un petit peu de l'humanité?
Non, il n'y a pas d'aigreur. Hein. J'ai pas ce sentiment-là. Et puis, j'ai pas de blasitude non plus, quoi. Le monde est comme ça. C'est juste, comme j'ai souvent dit, depuis la cour de récré, je sentais comme cette tendance comme ça à l'être humain. Voilà, les mômes entre eux sont assez cruels. Il y a déjà cette sensation de domination, les dominants, les dominés, les grands qui veulent casser la gueule aux petits, enfin, qui veulent se sentir fort. Donc, j'avais déjà une perception un peu de l'humanité qui était pas géniale, quoi. Et j'ai vu qu'à l'adolescence, ça s'est confirmé par rapport au monde des adultes. Heureusement que pour moi, la musique est arrivée vraiment comme un guide et un peu comme un porte-bonheur et puis une porte ouverte au rêve qui me permettait de pas forcément être tous les jours dans la vraie vie, quoi. Même si j'y étais confronté, mais voilà, j'avais quand même 2-3 échappatoires et la musique est un truc génial pour ça. Et j'ai toujours eu assez de mal à m'insérer dans cette société pas évidente, quoi.
Et la musique, c'était un moyen de t'insérer.
Cupide, roublarde, enfin voilà, avec des gens pas forcément sincères et tout. Voilà, c'est l'humanité. On allume sa télé, on regarde les infos, on voit ce qui se passe dans le monde. C'est l'horreur, quoi. On vit dans un monde pas facile à vivre, quoi. Voilà, au bout d'un moment, on voit que c'est toujours la même rengaine. Et je pensais qu'avec le temps, avec cet idéalisme des années 60 ou cette envie de changer le monde, un peu cette contre-culture que j'ai pu vivre pendant cette période-là, on pensait qu'il y avait peut-être à un moment donné un accès à une sorte de monde un tout petit peu meilleur, et je me rends compte que toutes les années passent et rien ne change, et peut-être qu'il y a des choses qui empirent aussi, enfin que ça s'arrange pas, donc voilà, il y a des moments, c'est plus de la déception, ouais, une sorte de désenchantement, mais voilà, de toute manière, faut continuer, on n'a pas tellement le choix et faut aller au bout du chemin, quoi.
Après, justement, on a peut-être tendance à penser qu'on est supérieur à avant, alors qu'en fait pas du tout, et qu'on a appris de nos erreurs et que c'est pas le cas non plus.
Ouais, de toute manière, ce sentiment d'arrogance, de supériorité qu'a cet être humain pour une soi-disant intelligence qu'on y a filée à la naissance par rapport aux animaux, par exemple, quand on voit, admettons, cette domination qu'a l'homme sur les animaux, cette maltraitance qu'il a vis-à-vis d'eux, enfin, ce sentiment de supériorité qu'a l'être humain est insupportable, quoi.
Et malsain.
Enfin, je veux dire, le fait de pas arriver à piger, qu'on fait partie d'un tout, tout est complémentaire, on a besoin tous les uns des autres, aussi bien de toute la race animale que de la race humaine, quand on voit tous les problèmes de racisme, de machin, de religion qui viennent se mêler à tout ça, on sait vraiment qu'on est dans un monde où on marche sur la tête, quoi, où les gens sont complètement fêlés. Donc voilà, heureusement, parfois on rencontre des gens super, ou même à la télé, on voit des gens qui font des choses fantastiques, des choses bien, même dans des associations, pour vraiment ce côté un peu altruiste, un peu pour aider son prochain. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont tendance à vous tirer vers le bas, même des émissions de télé, des tas de choses, quoi, c'est l'abrutissement. Donc, heureusement qu'il y a des chouettes personnes, ça réconcilie avec, la race humaine de temps en temps, ouais.
Et justement, là, pour revenir à ce que tu disais par rapport à des personnes mal intentionnées, l'image du funambule sur ton album, ça représente le cheminement de la vie, avec la possibilité de tomber par la faute de personnes mal intentionnées, justement, qui tentent de nous déstabiliser. Donc, quels sont tes conseils pour rester sur ce fil?
Oh là, waouh, j'ai pas vraiment de conseils, puisque la vie est vraiment tellement personnelle à chacun, quoi. C'est chacun sa vie, avec ta personnalité, ses problèmes, ses envies, ses ambitions, ses je sais pas quoi. Donc, moi, le seul truc que j'ai essayé de faire toute ma vie, c'est de toucher au plus près de moi-même, quoi, sans forcément une grande forme d'ego, au contraire. Mais c'est essayer de savoir pourquoi j'étais fait, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Je savais que j'avais envie de faire aucune concession, qu'une compromission dans ce métier-là. J'ai voulu en faire qu'à ma tête et rester le plus proche de mon intégrité, de ce que je suis, quoi. Donc, moi, c'est mon truc à moi. Maintenant, il y a d'autres personnes qui n'hésitent pas à se pervertir ou à faire des tas de choses pour arriver à leur fin. Ça, c'est leur problème. Mais disons que moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que je dis souvent, j'essaie de rester le plus dignement possible en équilibre sur ce fil jusqu'à la fin, quoi, en essayant de pas être tenté par les perversions diverses qui tentent à nous faire tomber plus bas, quoi. Ouais.
Donc rester fidèle à soi-même, quoi.
Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, arriver à se regarder, même si on n'a pas trop envie de se regarder dans la glace, mais je pense que arriver à se regarder un peu avec fierté dans la glace, je je pense que c'est le minimum de dignité que l'être humain devrait pouvoir avoir, quoi. Mmh.
Bon, en tout cas, c'est très beau ce que tu dis, j'apprécie vraiment grandement ce discours. J'avais aussi une autre question concernant les artistes ou les groupes vraiment que tu admires, qu'ils aient vécu ou qu'ils soient actuels.
Waouh, alors là, on pourrait parler pendant des heures, quoi. Mmh. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de commencer mon adolescence, enfin voilà, au début des années 60, et c'est vrai que quand les Beatles sont arrivés, ça a été un raz-de-marée, quoi. Quand j'ai vu ces quatre mecs sur la télé noir et blanc de mes parents, là, j'ai... Waouh, il y avait une attitude, une coupe de cheveux, une manière de déconner, enfin voilà, pendant les interviews, puis la musique surtout, quoi. Mmh. Super musique, on n'avait jamais entendu ce genre de groupe rock à quatre, comme ça, avec ses mélodies, enfin voilà, c'était hyper inventif. Puis après, il y a eu toute la vague anglaise qui a déferlé derrière avec les Stones, les Kings, les Animals, enfin voilà, tous ces groupes-là. Après, il y a Jimi Hendrix qui est arrivé, Eric Clapton qui avait un son de guitare qu'on n'avait jamais entendu quand il jouait avec John Mayall, Peter Green, Mick Taylor. Puis après, donc, je me suis intéressé, il y a la soul américaine qui est arrivée avec Aretha Franklin, Otis Redding, James Brown, puis Marvin Gaye, tous ces gens-là, Stevie Wonder. Puis voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la musique noire américaine, savoir qui avait influencé ces jeunes Anglais, comme ça, pour avoir ce son-là. Donc, bah là, on découvre B.B. King, Freddie King, Albert King, T-Bone Walker, enfin voilà, plein de gens, quoi. Et que voilà, c'est une mine de musique que j'ai vécu. Je pouvais écouter plein de choses, de la country ou cette sorte de folk avec James Taylor, j'aimais Crosby, Stills, Nash & Young, j'aimais, voilà, je pouvais écouter du jazz aussi, des choses très éclectiques. Et donc ça a bercé vraiment mon adolescence, ça m'a enrichi, ça m'a foutu une sorte de valise musicale comme ça dans la tête. Je pense que ça c'est un bagage pour la vie, ouais.
C'est clair. Nous sommes environ à la moitié de l'interview de Paul Persson. On va s'écouter un morceau de son dernier album intitulé Les Autres.
Les choses et tout qui s'agitent ceux qui polluent, ceux qui préfèrent la fuite. Les sans-respect nous parlent d'injustice, les premiers à dire mais que fait la police. Tu ne supportes plus l'autre qui t'épie, te harcèle, magouille, te détruit. Mais t'es aussi cet autre pour celui qui dit et redit à l'infini. L'enfer c'est les autres, l'enfer c'est les autres, l'enfer c'est les autres, comme toujours. L'enfer c'est les autres, l'enfer c'est les autres, l'enfer c'est les autres, comme toujours. L'enfer c'est les autres, l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres, comme toujours. L'enfer c'est les autres, l'enfer c'est les autres, l'enfer c'est les autres.
Et là, dans les artistes de la nouvelle génération, il y a des choses qui t'ont marqué ou pas ?
Ouais, il y a plein de trucs. Là, dans les groupes américains, j'ai vachement aimé les Rival Sons, par exemple, qui avaient ce son un peu dur à la Led Zeppelin, mais avec des mélodies. Enfin, je sais pas, il y a plein de gens qui me bottent, dont on retient pas forcément les noms, parce que parfois, j'écoute de la musique, on va dire, un peu plus distraitement que par le passé. J'aime bien écouter de la musique en bagnole. Voilà, quand j'ai beaucoup de routes à faire, j'ai encore une bagnole où il y a des cassettes dedans, j'ai des CD, j'ai des choses comme ça, il y a la radio. Mais la radio annonce ou désannonce pas toujours les titres qu'elle passe, quoi. Donc j'écoute plein de trucs. Dans toutes les musiques, il y a des choses qui me touchent et puis des choses qui me touchent moins. Et je suis toujours sensible et réceptif à des choses comme ça qui vont m'accrocher permanence, quoi. Ouais.
Concernant tes performances live, donc j'ai eu la chance de te voir à la Luciole en octobre. Donc tu n'étais pas monté sur scène depuis 2015, si je ne m'abuse. Et tu as choisi la Luciole pour démarrer ta tournée. Donc un concert de dingue, 2 heures de live incluant 2 rappels. Où est-ce que tu trouves toute cette énergie ?
J'ai pas de recette pour ça, je sais pas du tout. Je l'ai, on l'a ou on l'a pas. Je pense que depuis tout môme, j'ai un petit feu qui brûle à l'intérieur, qui fait que j'ai envie de m'exprimer avec la musique. Ouais, c'est ma passion, mon moyen d'expression. Voilà, j'ai toujours cette énergie. Sur scène, là, j'ai pas les musiciens que t'as cités tout à l'heure, parce qu'ils étaient pas libres pour la tournée, mais j'ai trouvé 3 jeunes mecs super. Il y a Steve Belmont à la batterie, il y a Max Darmon à la basse et Florian Robin au clavier. C'est des jeunes mecs qui ont 26, 27, le plus vieux, il doit avoir 34 ans. Et c'est vachement bien parce que d'abord c'est super mec humainement, c'est des super musiciens et puis ils ont cette énergie que moi j'ai encore, quoi. Et donc ça c'est vachement bien. Je pourrais pas jouer avec des vieux mecs un peu ploum ploum avec des chaussons et tout. j'ai besoin encore de ça parce que j'ai encore ce truc à l'intérieur. Je pense que le jour où je l'aurai plus, où je sentirai que ça va commencer à s'étioler, où je changerai mon fusil d'épaule, où je jouerai assis et puis je ferai des trucs plus tranquilles où j'arrêterai, quoi. Mais mettons qu'il y a encore ce truc qui se consume à l'intérieur, j'en profite, quoi.
Et tu les as sélectionnés comment, ou du moins tu les as trouvés comment, tes musiciens?
Ah, ça a été des auditions, ça a été des coups de fil. J'ai demandé à des potes musiciens qui me rencardent sur des musiciens sympas, qui jouaient bien, qui auraient peut-être envie de jouer avec moi et tout. Et donc, il y a des mecs qui ont répondu à l'appel, donc j'ai fait plusieurs auditions. J'aime pas tellement ça, parce qu'en général, général, tous les musiciens que t'essaies, c'est tous des bons musiciens, puis il y a des gens à qui il faut dire non. J'ai sélectionné ceux-là parce que j'ai senti tout de suite qu'il se passait un truc entre nous, quoi. Dès que je les ai rencontrés, qu'on a joué ensemble, j'ai senti qu'on avait les mêmes codes, la même culture musicale, même s'ils sont plus jeunes que moi, ils ont écouté plein de trucs et tout, et donc ils m'amènent aussi leur savoir-faire, leur énergie, et puis voilà, je peux les tuyauter aussi sur des vieilles influences ou des choses comme ça, et donc le mélange est vachement intéressant, quoi.
En tout cas, ça doit être effectivement assez sympathique d'être un peu sur la même longueur d'onde avec ces musiciens, quoi.
Bah, j'ai toujours cherché ce genre de truc. Moi, j'ai jamais voulu me sentir seul sur une scène avec une bande de requins derrière, quoi. Ça m'intéresse pas. J'ai été élevé au groupe, comme je te disais tout à l'heure, les Beatles, les Stones, enfin voilà. Au bout d'un moment, j'ai suivi une voie solitaire parce que j'ai vu que de toute manière, tous les groupes finissaient par s'engueuler. Il y avait toujours des problèmes d'ego. Il y avait toujours un mec qui voulait être vizir à la place du vizir. Enfin, ça a toujours été compliqué. Donc, au bout d'un moment, le fait d'être tout seul, je me suis dit que comme ça, j'aurais l'occasion de choisir qui je veux, quand je veux, de faire ce que je veux, de partir sur la route quand je ressentais le besoin ou pas, enfin voilà. Donc ça donne une forme de liberté, mais j'aime bien, comme je disais tout à l'heure, la complémentarité, j'aime bien faire des choses avec les autres. Ouais, cette association qu'il peut y avoir où chacun amène quelque chose de sa personnalité, ça marche ou ça marche pas, mais... Et donc sur scène, c'est pareil, j'ai toujours eu une notion de groupe pour moi, c'est... Je me sens jamais seul, quoi, et j'ai besoin de cette complicité avec les mecs.
J'entends. Et là, justement, il y a un truc qui m'a un peu interpellé quand je disais d'autres interviews de toi. Tu as dit plusieurs fois que tu adorais faire du live, mais que tu étais un peu introverti. Comment tu arrives à concilier les deux?
Je fais avec, c'est pas évident, quoi, mais j'ai passé ma vie à faire ça. C'est-à-dire, ouais, au départ, je suis un mec un peu timide, introverti, qui est pas du genre à ramener sa fraise, comme je disais tout à l'heure, dans le genre les monsieur je sais tout, quoi. J'en vois partout, ça, quand, à l'heure de l'apéro, dans les bars, tout le monde sait tout sur tout, quoi. Mais, et donc, j'ai jamais été un mec comme ça. Je suis plutôt du genre à écouter, à donner mon avis, voilà, mais je suis pèse le pour et le contre, j'essaie de trouver une forme de justice dans les propos, dans la manière de vivre, donc c'est totalement contraire de faire ce métier-là et de pas vouloir être sur scène sous les regards des gens, quoi. Donc c'est... Mais je fais ça depuis que j'ai 14 piges, quoi. Donc, en même temps, je sais que ça fait partie de ma vie, et voilà, faut faire avec, et bon, c'est pour ça, en studio, je suis relax, parce qu'on fait ce qu'on veut, on peut recommencer quand on veut. Bon, le live, c'est one shot, là aussi, on est un vrai funambule, surtout que j'improvise pas mal, donc il y a des jours, on essaie des choses, ça marche, puis il y a des jours, bah, ça marche moins bien, c'est mauvaise pioche, bon, ben, ça fait partie de...
Du jeu.
Ouais, de cet effort qu'il faut avoir avec évidemment un petit trac parce qu'on n'est pas sûr du résultat, on sait pas si le public va être content, on sait pas le son qu'il va y avoir dans la salle, on sait pas, enfin voilà, c'est tous ces points d'interrogation qu'il y a avant de monter sur scène, mais en même temps, quand ça se passe bien et que les gens sont réceptifs et qu'il y a ce ping-pong, cet échange comme ça entre les musiciens et le public, c'est génial, c'est un moment qu'on peut pas vivre autre part dans sa vie, quoi. Ouais.
Et tu stresses encore quand tu montes sur scène actuellement?
Bah, il y a toujours un truc, mais peut-être pas forcément juste avant, ça peut être l'après-midi quand j'arrive à la salle ou la veille, ou c'est assez bizarre ce truc. Bah, c'est un drôle de truc de monter sur scène, surtout que voilà, comme je fais pas un truc à chaque fois la même chose, hyper cadré, hyper répété comme une pièce de théâtre et tout ça, donc comme je me laisse plein de liberté, bah forcément ça peut donner le droit à l'erreur, quoi. Mais bon, ça passe assez rapidement. De toute manière, dès qu'on est embringué dans la musique, la musique est géniale. Même parfois, on est un peu malade, on est un peu fatigué, on se demande comment on va faire, et puis on arrive à aller puiser de l'énergie au fond de soi-même. Puis au bout de 2 heures, on sort, on est bien plus en forme qu'avant, quoi.
Ouais. Donc, il y a pas mal de parts d'inconnu, en fait, vu que t'improvises, tu sais pas ce que ça va être le rendu, mais une fois que t'es dedans, quoi.
Ouais, voilà, ouais.
Et par contre, il y a un truc qui m'a interpellé aussi, c'est en faisant des recherches sur Wikipédia, je suis tombé sur, donc comme surnom, tu as l'homme à la Gibson, mais aussi Doudou. Et j'aimerais savoir, c'est quoi l'origine du deuxième?
Oh là là, c'est une longue histoire, j'ai pas trop envie d'en parler, c'est des pseudos d'adolescents. Voilà, il y a des mômes qui font des jeux de mots, et puis après, bah, il y en a un qui le garde, et puis après, on te présente sous ce pseudo-là, que moi, j'acceptais pas vraiment, mais d'accord. À la fin, tout le monde finit par taper comme ça, et toi, tu baisses la tête, tu fais, oh, vous faites chier, les mecs, et puis, mais en fin de compte, ça te poursuit jusqu'au jour où t'arrives quand même à l'évacuer avec un grand coup de pompe, ce pseudonyme, et puis, était bien content, quoi. Mais au bout d'un moment, t'en prends l'habitude, donc tu fais avec, quoi. Mais bon.
Non, mais dans ce cas-là, pas besoin de. Enfin, moi, je suis désolé d'avoir ramené ce sujet.
Mais... Non, mais c'est pas grave, c'est pas un traumatisme, hein, t'inquiète pas. Hein.
Et là, je voulais aussi te demander sur un futur projet, si t'as envie de faire une collab, par exemple, avec quelqu'un, ça serait qui?
Je sais pas, tu sais, comme toutes les collaborations que j'ai pu faire avec. Avec des tas de gens, c'est eux qui m'ont appelé ou qui m'ont fait appeler par leur manager ou des choses comme ça. Donc c'est génial, tous les gens avec qui j'ai eu la chance de jouer. Moi, je me serais jamais permis d'appeler ces gens-là, quoi. Mmh. Donc ça m'a permis d'avoir des rencontres comme ça très enrichissantes. Et mais à chaque fois, c'était le fruit du hasard. Et donc je préfère toujours laisser le hasard se pointer au milieu de ma route plutôt que de prévoir quelque chose et de me dire « Ah tiens, je vais appeler un tel » et puis prévoir faire ça. Ça m'intéresse moyen, je préfère que je préfère l'inattendu, quoi.
C'est plutôt pas mal goupillé pour toi, en tout cas, en laissant le hasard se faire.
Voilà.
Avec le recul que tu as aujourd'hui, quels seraient les conseils que tu donnerais à une jeune personne qui souhaite devenir artiste ou musicien ?
Bah, un peu la même chose que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, par rapport à la vie, quoi. C'est essayer vraiment d'être soi-même au maximum, de pas trop se laisser parasiter et perturber par des faux donneurs de conseils ou des mauvais donneurs de conseils, même si parfois on a besoin de conseils, mais il y a des sortes de gens un peu vampirisants comme ça dans ce métier, ou qui veulent faire de quelqu'un une star, qu'on a une idée comme ça, qui veulent le transformer complètement. Alors c'est peut-être marrant au début parce que ça peut marcher, mais est-ce que sur le long terme cette personne là aussi aura envie de se regarder en face dans la glace sans honte, je sais pas, en se disant waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait. Donc le mieux, c'est de rester le plus fidèle à soi-même et de faire ce qu'on a envie de faire, quoi. On n'a qu'une vie, donc puis même si on est doué, même si il y a quand même une petite once de talent ou des choses comme ça, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que c'est vachement de boulot, quoi. Ça vient pas tout seul, ça tombe pas tout seul du ciel, quoi. Faut bosser, quoi. Et même si parfois on pense que des musiciens ou des artistes, c'est un peu des je m'en foutiste ou des... Non, il y a vachement de travail dans tout, quoi. Il y a de la fatigue, il y a des jours où, ben voilà, on trouve pas ce qu'on veut trouver, ou dans l'écriture, ou dans des choses, il y a des heures de route, il y a des répétitions, il y a des choses, c'est pour parfois une heure et demie, deux heures de concert, il y a vachement de travail derrière. Donc voilà, faut bosser, faut s'accrocher. De toute manière, la vie fait sa sélection naturelle. Il y a plein de jeunes personnes qui, entre 15 ans et 25 ans, se disent « Ouais, ça peut être cool d'être musicien. Tiens, on va devenir des stars. C'est cool pour les filles, ou l'inverse pour les filles, pour les garçons. Enfin, voilà, on va avoir du fric, on va faire machin. » Mais c'est surtout pas ça le but, quoi. Enfin, moi, je sais que ça n'a jamais été mon but. Mon but, ça a été la musique. J'ai vite compris que tout ce côté succès, starisme, star system et tout, c'était de la gnognotte. C'est pas ça le but qui est intéressant, quoi. Si ça marche, tant mieux, mais comme on dit souvent, c'est le chemin à parcourir qui est intéressant. C'est même peut-être pas forcément l'arrivée, quoi.
Le but, c'est d'être heureux, pas forcément d'être juste célèbre et vide.
Okay. Ouais, faut trouver son truc, quoi, et voilà.
Écoute, en tout cas, vraiment, c'était super sympa de discuter avec toi. J'ai beaucoup apprécié cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour le mot de la fin?
Non, moi, tu sais, si on pose une question, je réponds, sinon j'ai tendance à rien dire et plutôt écouter, donc...
D'accord. Et bien, en tout cas, merci Paul Personne de m'avoir accordé cette interview. Donc, pour rappel, ton album s'appelle Funambule ou Tentative de survie en milieu hostile, et il est sorti le 31 mai, et tu passes demain soir à Argentan au Quai des Arts à 20h30, donc j'ai vérifié tout à l'heure, il y a encore des places, donc dépêchez-vous d'aller voir Paul en live, parce que c'était une performance de dingue. Et en tout cas, je te remercie énormément d'avoir accordé cette interview, Paul, et je te dis à très bientôt.
Ok, merci. Salut.
C'était l'interview de Paul Personne. On le remercie encore de nous avoir accordé quelques instants, et on va s'écouter un petit morceau de son dernier album intitulé Les Dégâts.
Je vous conditionne pour la fermer. machine. So I can get no satisfaction. Et en plus une vie à subir en prime. Écoute, ça crie si fort qu'on ne s'entend pas. Ça regarde ailleurs, on ne se voit pas. Chaque jour il faut payer les dégâts. Pourrir